Bonjour Sandra, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et j'aimerais aborder un thème qui me tient à cœur depuis cet été à partir d'un livre que j'ai eu l'occasion de parcourir, qui s'appelle « Les idoles du cœur » de Timothy Keller, et qui est donc paru au début de cette année. Et c'est un livre assez formidable que j'aimerais en condensé vous résumer ce matin pour que vous ayez à la fois envie de le lire et que vous ayez conscience du sujet important dont il parle. Et tout d'abord, en introduction, j'aimerais vous parler d'une personne que je connais qui s'appelle Jean-Claude. Timothée, c'est pas un chat. Jean-Claude a travaillé comme vendeur de camions dans l'Ain et sa situation de commercial a prospéré et lui a permis de connaître vraiment le succès. Il avait un niveau de vie suffisant pour pouvoir s'acheter un avion et passer donc ses week-ends un peu aux quatre coins de la France. Et lorsqu'il a terminé son activité, il a pu utiliser l'argent qu'il avait amassé pour s'acheter un tabac sur la Presqu'île à Lyon. Ce bureau de tabac, il l'a fait prospérer et il était assez réputé, à tel point que lorsqu'il a revendu le bureau de tabac pour partir à la retraite, son argent lui a permis d'acheter un yacht et de voyager pendant plusieurs années sur tous les fleuves et canaux de France. Clairement, Jean-Claude a couru toute sa vie après le succès, après l'argent et après le profit. Le goût du profit est certainement l'une des idoles les plus banales de notre société. Mais en réalité, on va voir ensemble que les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Si on regarde dans l'Antiquité, comme Paul, on réalise qu'il existait une multitude d'idoles. Si on pense à Aphrodite, ici, qui était la déesse de la beauté, si on pense à Artémis, à droite, la déesse de la chasse, on réalise que c'est ce polythéisme antique est en réalité pas si éloigné de notre culture aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on n'a plus d'Aphrodite parmi nos dieux, on conserve cependant la déesse de la beauté. Et le souci obsessionnel de notre image se transforme parfois pour certaines personnes en troubles alimentaires, voire en anorexie ou encore en dépression. Si on pense à Artémis, qui était la déesse de la chasse, du succès, de la prospérité, on voit aussi qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à courir après l'argent, après la carrière, après le succès. Ainsi, notre société, qui en apparence est sécularisée et n'est plus religieuse, est en fait plus religieuse que jamais. Notre société est remplie d'idoles. Et ces idoles, et c'est là où c'est assez surprenant, ne sont pas seulement au cœur de notre société, mais elles sont aussi au cœur de la Bible, d'où toute son actualité pour nous aujourd'hui. Regardez ce qui est marqué dans Exode chapitre 20, les fameux 10 commandements. Le premier commandement, c'est quoi ? Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. La première chose que Dieu fait dans les 10 commandements, c'est d'interdire l'adoration d'autres dieux que lui. Et vous voyez à quel point ce thème est central dans la Bible, est central dans nos vies, et est important. Il est important d'y réfléchir. Alors j'aimerais voir avec vous quatre aspects. D'abord, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une idole. Ensuite, en quoi c'est un problème. Comment on peut identifier une idole. Et enfin, de savoir si c'est possible de mettre fin aux idoles. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une idole? Alors, il y a une liste immense d'idoles. Ici, je vous ai mis quelques illustrations. Ça peut très bien être ta famille, ça peut être tes enfants, ça peut être ta carrière, ça peut être ta maison que tu es en train de construire ou celle à laquelle tu rêves. Mais aussi, ça peut être tout simplement ton église, dans laquelle tu t'investis corps et âme, au point d'oublier pourquoi tu t'investis. En fait, une idole, c'est quoi ? Bien, c'est une bonne chose qui devient une chose ultime. J'insiste sur le fait que c'est une bonne chose. Une idole n'est presque jamais une mauvaise chose en soi. Toute chose peut devenir une idole. Et surtout, surtout, les meilleures choses de la vie. C'est quelque chose de si central dans ta vie que si tu perds cette chose, alors tu perds une partie du sens de ta vie. Je répète ça, c'est quelque chose de si central dans ta vie que si tu perds cette chose, tu perds une partie du sens de ta vie. Je reviens aux exemples de tout à l'heure, la beauté physique. C'est une qualité, et c'est une bonne chose. Mais si cette beauté physique devient pour nous un dieu, quelque chose que nous déifions, alors la beauté devient tellement importante dans ta vie, ou dans notre société, qu'elle se métamorphose en Aphrodite. Elle devient non plus la beauté, mais elle devient une idole. Aphrodite. Si on revient à l'exemple tout à l'heure de Jean-Claude, qui a réalisé tous ses rêves de prospérité, de succès, chaque fois que je parle avec lui, il me raconte toutes ses aventures et toutes ses réussites, toutes ses actions qui lui ont permis de réussir aussi bien. Sa course au succès a transformé le succès en Dieu dans sa vie. Il n'a pas simplement cherché à gagner sa vie, mais en réalité, il a été motivé par la recherche du profit, et le profit est devenu son Dieu. Mais parfois, il y a des dieux qui peuvent être plus surprenants. Savez-vous que vos ennemis peuvent être vos dieux ? Oui, lorsque tu es plus troublé et inquiet et perplexe par le danger que les hommes te font courir, que les hommes représentent pour ta liberté, pour ta propriété, pour tes biens, eh bien, tu manifestes que ces ennemis sont tes dieux. Et que finalement, la peur que ces ennemis t'infligent est plus importante que la confiance que tu as en Dieu qui prend soin de toi et qui est prêt à te protéger. Les idoles sont donc très nombreuses et parfois peuvent être assez surprenantes. Mais en quoi est-ce un problème ? Le problème, c'est qu'une idole n'est presque jamais quelque chose de mauvais en soi, et par conséquent, nous avons tous des idoles. Et notre société en est remplie. Une idole n'est presque jamais une mauvaise chose en soi, et par conséquent, être riche, est-ce un problème ? Avoir une bonne réputation, est-ce que c'est un problème ? Être belle, est-ce que c'est un problème ? Toutes les réponses sont les mêmes. Non ! Mais toute bonne chose peut devenir une idole, et surtout les meilleures choses de la vie. Alors, où est le problème ? Le problème vient de ce que tu fais, de ce que fait une idole dans ta vie. Le problème vient de ce que fait une idole dans ta vie. Et une idole a tendance à faire trois choses. Tout d'abord, elle a tendance à prendre la place de Dieu dans ta vie. Ensuite, elle a tendance à influencer et transformer, déformer tes sentiments. Et ensuite, elle vise à te détruire. Une idole a tendance à prendre la place de Dieu. Alors pourquoi ? Parce qu'une idole est un dieu, et un dieu cherche à contrôler ton cœur d'une façon telle que tu vas lui consacrer ton énergie, tes passions, ton temps, ton argent, tes émotions, sans y réfléchir à deux fois. Et par conséquent, tu vas manifester envers ton idole une véritable confiance religieuse. Tu vas aimer ton idole, tu vas lui faire confiance et tu vas même lui obéir. L'idole va devenir tellement centrale est essentiel pour ton cœur, que tu vas tout faire pour ne pas la perdre. Ou à l'inverse, une idole peut être aussi ce à quoi tu vas aspirer, et tu vas y aspirer de telle sorte que tu te dis, si j'avais cette chose dans ma vie, alors ma vie aurait un sens. Je saurais que je vaux quelque chose, et que je me sentirais important et en sécurité. C'est exactement la publicité, les publicistes sont exactement conscients de ce fonctionnement de notre monde en idole. Lorsque L'Oréal vous dit que vous le valez bien, et qu'il vous incite à acheter leur parfum, mais c'est exactement ça l'idée. Si j'avais seulement ce produit de beauté, mais alors, waouh, ça y est, là je me sentirais mieux. Une idole prend la place de Dieu dans ta vie, mais elle influence aussi tes émotions. Les idoles ont tendance à générer des désirs qui sont paralysants et écrasants. Elles provoquent de fausses croyances. Si je n'arrive pas à telle chose dans ma vie, alors ma vie ne vaut rien. Et derrière telle chose, on peut chacun placer nos exemples personnels. Réussir un concours, réussir des études, réussir à obtenir une promotion professionnelle. Si je n'arrive pas à obtenir cette chose, alors ma vie ne vaut rien. Ou encore, une autre forme, peut-être, puisque j'ai perdu ou que j'ai déçu telle personne, mais alors je ne peux plus jamais être heureux ou pardonné. C'est que ce genre de croyances ont tendance à transformer nos déceptions et nos échecs en expériences qui viennent détruire notre vie. Si par exemple tu dis, je sais que Dieu me pardonne, mais je ne pourrai jamais me pardonner moi-même. Je sais que Dieu me pardonne, mais ce que j'ai fait, c'est jamais je pourrai me pardonner. En réalité, en disant cela, tu exprimes le fait que tu as déçu une idole. Cette idole, c'est l'idole de l'approbation, qui pour toi est devenue plus importante que celle de Dieu dans ta vie. L'idole peut être aussi la crainte et l'anxiété que tu as face à l'avenir. À ce moment-là, si tu ressens de la crainte et de l'anxiété par rapport à l'avenir, ça veut dire que l'idole de la sécurité et du confort a une emprise sur toi. Si la culpabilité t'écrase à cause de ce que tu as fait dans le passé, c'est l'idole de la perfection ou l'idole de l'approbation qui a une emprise sur ta vie. Si la colère ou le désespoir sont monnaie récurrente en toi, eh bien c'est que tu ne supportes pas que tes idoles soient entravées ou soient retirées par les circonstances que tu vis. Et ça peut avoir des conséquences fâcheuses, parce qu'une idole n'a pas seulement une influence sur les émotions, mais une idole vise aussi à te détruire. Alors pourquoi est-ce qu'une idole vise à te détruire? Alors regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 24. « La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est que Dieu nous abandonne aux passions de notre cœur. » Et dans le contexte de Romains 1, il y a des applications pratiques qui suivent, mais c'est un principe général. Si on laisse les idoles au cœur de notre vie, eh bien Dieu va laisser ses passions être les maîtres de notre vie. Et ça va nous porter toujours plus loin de lui. Parfois, l'exaucement de nos rêves les plus chers peuvent être la pire des choses qui puissent nous arriver. Jean-Claude a fêté au printemps 2012 ses 80 ans. Il a énormément de temps libre, et malheureusement, avec le temps qui passe, il a de moins en moins d'envie d'utiliser ce temps. Il a toujours beaucoup d'argent, mais son manque d'envie limite les raisons qu'il a de l'utiliser. Ce qu'il lui reste aujourd'hui, c'est quoi ? Bien, c'est le souvenir des succès qu'il a obtenus dans sa carrière, dans sa vie. C'est la manière dont il a accumulé tout l'argent qu'il possède aujourd'hui. L'argent lui avait promis le bonheur et la sécurité, et l'argent lui a donné le bonheur et la sécurité. Mais à 80 ans, l'argent ne lui procure plus le bonheur et la sécurité dont il aspire au seuil de sa vie. L'argent ne peut plus lui garantir une bonne santé. L'argent ne peut plus lui garantir des amis fidèles, ni la sérénité face au dernier grand voyage. L'argent qu'il a suivi et servi toute sa vie, aujourd'hui, l'abandonne. Et l'abandonne à ses responsabilités d'être humain. Et c'est ce que fait une idole. Si on la sert toute notre vie, au final, elle va nous abandonner. Un autre exemple est celui d'une maman. Alors, je vous donne cet exemple parce que je pense qu'on peut tous le comprendre, même si on n'est pas tous des mamans, on est tous fils ou filles d'eux. Une maman qui a désiré à tout prix avoir des enfants et qui en a eu et qui a consacré toute son énergie à la réussite de ses enfants. Et du coup, elle s'est transformée en une maman très anxieuse quant à la sécurité de ses enfants. Elle est devenue surprotectrice jusqu'à contrôler tous les aspects de leur vie pour être sûre qu'il ne leur arrive rien. Et plus cette maman a cherché à protéger ses enfants, et plus ses enfants sont allés mal. L'aîné a connu l'échec scolaire et le cadet était rempli de colère envers elle. Sa volonté de leur donner une vie parfaite s'est transformée en un échec cuisant qui a causé la perte de ses enfants. Pourquoi ce processus? Parce que nos cœurs ont tendance à transformer toute bonne chose en idole. Tout être humain doit avoir une raison de vivre qui capture son imagination et l'espérance de son cœur. Et par défaut, ce n'est pas Dieu. Pour cette maman, elle s'est laissée capturer par le désir de voir ses enfants réussir. Et ses enfants, la réussite de ses enfants est devenue pour elle une idole qui a complètement capturé sa vie. Et en fait, elle a produit des cœurs brisés parce que ses enfants, Dieu, ont été écrasés sous le poids des attentes de leur mère, qu'ils ne pouvaient de toute manière pas satisfaire. Et cette maman même a eu le cœur brisé de voir que ses enfants ne réussissaient pas aussi bien que toute l'énergie qu'elle mettait en eux. En fait, cette maman n'est pas arrivée à imaginer que Dieu puisse avoir un meilleur plan pour la vie de ses fils que celui qu'elle avait pour eux. Cette maman leur a planifié une vie parfaite, sans échec, sans déception, sans souffrance. En réalité, c'était le moyen pour elle de donner du sens à sa vie et de se montrer comme et de trouver de l'importance. En fait, en réalité, sa croyance en Dieu était intellectuelle, mais son cœur ne pouvait s'épanouir que lorsqu'elle pouvait entendre ces mots de la bouche de ses enfants. « Ah, maman, je t'aime. » Sous-entendu, « Maman, je te dois tout. » Mais en réalité, rares sont les mamans qui entendent ça de leurs enfants. Et souvent, plus une maman s'investit pour ses enfants, moins elle entend cela. Est-ce que nous croyons que les plans que Dieu a pour notre vie sont meilleurs que tous ceux que nous pouvons faire nous-mêmes pour notre vie? Ou est-ce que nous avons besoin de tout contrôler, de tout maîtriser et de laisser aucune place à l'insécurité, au doute? Il est important donc de comprendre qu'il y a un problème par rapport aux idoles, mais il est important aussi d'être capable de les identifier. Alors comment est-ce qu'on peut identifier une idole? Alors pour identifier une idole, c'est parfois facile, parce qu'il y a des idoles qui sont évidentes, ce sont les idoles personnelles. On en trouve beaucoup d'exemples dans les Écritures, par exemple Colossiens 3.5, « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, cette passion incontrôlée, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » Ces idoles, c'est l'amour sentimental, la prospérité financière, le succès politique, la puissance, la gloire. Celles-là, elles ne sont pas très compliquées à identifier. Mais il y a des idoles, par contre, qui sont plus difficiles à identifier. Et c'est ce que Timothy Keller appelle les idoles collectives. Alors, ces idoles collectives, c'est les idoles, en fait, qui font qui sont intégrés dans notre société, qui font partie de notre culture. Ces idoles peuvent être sociales. Par exemple, il y a un dieu qui est très présent dans notre société, c'est le dieu du profit. C'est le dieu du profit, ok, je ne vais pas en parler plus parce que celui-là est assez évident, mais il y a des idoles plus masquées, par exemple, dans notre culture. Si on prend les cultures traditionnelles, par exemple, je connais un petit peu la culture indienne par mon beau-père. Dans les familles indiennes, encore aujourd'hui, c'est très souvent le père qui choisit avec qui sa fille peut se marier. Et les familles s'arrangent entre elles. Et c'est une tradition culturelle où le père est celui qui a le pouvoir. Où le père décide pour les enfants et les enfants n'ont qu'à faire ce que le père dit. À l'inverse, dans notre culture occidentale, française, notre idole, c'est la liberté individuelle. À savoir, je décide ce que je fais et je fais ce que je veux quand je veux. Et personne n'a à me dire ce que j'ai à faire. On est là dans deux extrêmes dont on peut avoir conscience. Alors souvent, c'est plus facile de voir les idoles dans les cultures des autres pays. Si vous pensez aux États-Unis, il y a plein d'idoles qui sautent aux yeux, notamment la culture du héros. Regardez n'importe quel film américain, il y a toujours un gars fort qui vient au secours des plus faibles et qui va manifester le fait qu'un héros peut sauver le monde. Mais parfois, c'est plus difficile de voir nos propres idoles dans notre propre culture. Tellement on est immergé dedans, tellement c'est des choses qui sont habituelles. Et puis c'est vrai aussi pour soi-même. Parfois, j'ai du mal moi-même à voir quelles sont mes idoles. Et on va voir après quelles sont les solutions pour détecter cela. Il y a aussi une idole qui peut être au sein même de notre religion. Comment est-ce que je suis justifié par Dieu ? Vous avez déjà entendu des personnes en chair qui se permettent de se moquer ou de dénigrer une autre église ou une autre croyance ou une autre manière de penser. Alors je ne parle pas des hérésies, d'accord ? Mais pendant longtemps, moi quand j'étais petit, lorsqu'on parlait de chrétiens pentecôtistes depuis la chair, souvent c'était en termes assez péjoratifs et assez dédaigneux. Et puis aujourd'hui, en discutant un petit peu, on réalise que certes, ils ont leur manière de croire, mais que malgré tout, ce sont nos frères et sœurs et qu'on est appelé à les respecter. Mais cet exemple même montre que parfois, notre doctrine et l'attachement que nous avons à notre doctrine, parce que nous avons la bonne doctrine, peut se transformer en idole, qui nous aveugle et qui nous pousse à nous moquer ou à mépriser les autres. C'est pour cela que c'est important de se poser les bonnes questions. Alors je vous propose de voir ensemble quatre questions essentielles à se poser pour détecter nos idoles. La première question, c'est celle de l'imagination. William Temple, qui était un évêque anglican, a dit « Votre religion est définie par ce que vous faites de votre solitude. » Lorsque tu es seul avec toi-même, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? C'est quoi le mécanisme qui se met en route et vers quoi ton imagination te porte ? À quoi est-ce que tu as l'habitude de penser lorsque tu es seul pour retrouver la joie et le réconfort dans l'intimité de ton cœur ? Deuxième question, les dépenses. Vous connaissez ce verset de Matthieu 6, 21 ? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vers quoi coule ton argent ? Est-ce que savoir vers quoi coule ton argent te permet de déterminer où est le plus grand amour de ton cœur ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pour toi très faciles d'acheter ? Et d'autres qui sont plus difficiles à acheter, où tu vas y réfléchir à deux fois. Le fait de déterminer cela te permet de savoir quel est l'amour de ton cœur. Si Dieu et sa grâce sont l'objet de ton amour, Alors ton argent va naturellement couler vers la boîte à offrandes. Et Jacqueline sera contente puisque nos finances seront équilibrées. Mais pas que Jacqueline. Nos réactions. Très important de prêter attention à nos réactions. Et en particulier à nos réactions aux prières non exaucées ou aux attentes non réalisées. Comment est-ce que je réagis aux prières que j'adresse à Dieu, aux demandes que je lui fais? Si ma réaction c'est la tristesse ou c'est la déception, mais que je continue à me battre, que je continue à prier, que je continue à demander à Dieu d'agir, alors c'est-à-dire que cette chose que je demande à Dieu n'est pas mon maître. Par contre, si je prie, que je vois que Dieu ne m'exauce pas, ou me dit non, et que ça me plonge dans le désespoir, que ça me plonge dans la colère envers lui, mais alors c'est que j'ai démasqué mon vrai Dieu. C'est que la chose que je demande, en fait, c'est un Dieu pour moi. Et je crois que la mention de ce qui arrive à Sylvain Bricot ce matin, c'est pour nous aussi un défi personnel et collectif de prière, et de prière où on va être appelé à se battre, et on va être appelé à intercéder pour lui et à lutter ensemble pour que le Seigneur intervienne et agisse. Quelle va être l'issue de nos prières? Est-ce que Dieu va guérir Sylvain? Est-ce que Dieu ne va pas le guérir? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que je vais demander à Dieu qu'il me remplisse de sa vision pour Sylvain, de telle sorte que je ne sois pas rempli de déception et de colère, et que j'ai confiance dans ce qu'il fait et dans pourquoi il le fait. Quatrième chose, c'est de définir et d'être capable de déterminer quelles sont les émotions de ma vie qui sont les plus incontrôlables. Est-ce que je me mets en colère? Alors, dans ce cas-là, alors pas sur le coup, c'est compliqué, mais après, à froid, je peux me dire, mais pourquoi est-ce que je me suis mis en colère? Quelle est la chose qui a justifié une telle réaction de ma part? Et cette chose peut être mon idole. Si je suis rempli de peur, si je suis rempli de désespoir, si je suis rempli de culpabilité, pourquoi est-ce que je ressens cette peur? Quelle est la chose qui me semble absolument nécessaire, dont j'ai absolument besoin, et qui me manque, qui fait que je suis plein d'angoisse et dans l'insécurité? Est-ce que j'ai tendance à me dévaloriser dans un domaine où j'ai échoué et qui pour autant me semble absolument nécessaire, qui est en fait une idole pour moi? Ou tout simplement, est-ce que ton emploi du temps t'écrase tellement ton emploi du temps est rempli qu'il t'écrase à un tel point que tu as l'impression d'essayer de surnager, de prendre des bouffées d'air de temps en temps? Qu'est-ce qui explique que ton emploi du temps soit aussi surchargé? Est-ce que c'est pour toi essentiel que ton emploi du temps soit blindé pour que tu te sentes bien et que tu aies l'impression que ta vie tourne et que ta vie est importante? Ces questions sont donc essentielles pour nous. Se poser les bonnes questions sur notre imagination, nos dépenses, nos réactions, nos émotions les plus incontrôlables. Mais la question qui nous reste et qui est vraiment importante, c'est de savoir s'il est possible de mettre fin aux idoles. Est-il possible de mettre fin aux idoles? Je crois que on se pose tous la question de savoir, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais regardez ce qu'on apprend sur les Thessaloniciens, sur ces personnes à qui Paul a écrit. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Que faire? La réponse est là. Il est nécessaire d'abandonner les idoles. Et le problème, c'est que notre cœur, c'est une machine à fabriquer des idoles. Regardez, il y a un petit principe qui se manifeste dans tous les jours de notre vie. Le vide n'existe pas. Si vous faites le ménage chez vous, vous nettoyez la saleté, une semaine après, c'est nouveau sale. C'est un principe, la saleté vient toujours remplacer la propreté. Si on ouvre les fenêtres maintenant, le chaud va sortir, le froid va rentrer, etc. Si vous regardez ce qui s'est passé à New York lundi dernier, l'eau qui a débordé de l'océan a cherché par tous les moyens à remplir tous les vides possibles qu'elle pouvait trouver. Et c'est un principe constant, celui des vases communicants. Si on arrache une idole de notre cœur, on peut être sûr qu'une autre idole va prendre sa place. Si on abandonne une idole simplement pour l'abandonner, une autre idole va venir prendre sa place. Pour qu'une idole puisse être efficacement arrachée de notre vie, elle doit être remplacée par autre chose. Et cette autre chose, c'est Dieu seul. Cette autre chose, c'est une vraie rencontre avec le Dieu vivant. Je vous rappelle la définition d'une idole qu'on a vue au début. Une idole, c'est quoi ? Une bonne chose qui devient une chose ultime dans ta vie. Une bonne chose qui te pousse à tout sacrifier pour elle. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous ? Jésus-Christ, lui, s'est sacrifié pour toi. L'idole veut que tu sacrifies tout pour elle, mais Jésus-Christ, lui, s'est sacrifié pour toi. Et pourquoi est-ce qu'il s'est sacrifié ? L'idole, elle veut que tu sacrifies tout pour elle, pour t'asservir et te détruire. Christ, lui, a sacrifié tout pour toi, pour te prouver l'amour immense de Dieu. Et c'est ce qu'on lit dans Romains 5, 7 à 8. Mais voici comment Dieu montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'idole veut t'asservir, mais Christ veut te libérer. L'idole veut te séduire et te tromper et te détruire, mais Christ, lui, a donné sa vie pour que tu vives. Abandonner les idoles, c'est ce qu'il faut faire. Mais comment faire ? La seule solution, c'est de remplacer l'idole par le Dieu vivant et vrai, qui nous a manifesté son amour par Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Par conséquent, comment remplacer une idole ? Ben c'est très simple, il faut l'apporter à Dieu, avec un cœur repentant, en disant à Dieu, voilà, j'ai réalisé que j'ai telle idole dans ma vie, et je veux te demander pardon pour cela. Mais il faut pas l'apporter dans la peur et la crainte, et dans le désespoir. Mais il faut l'apporter avec joie, dans une repentance joyeuse. Parce que cette repentance est basée sur la joie de savoir que notre idole peut être remplacée. Qu'il y a un espoir, que cet espoir c'est Christ. Christ qui s'est sacrifié, lui, pour nous prouver son amour. Christ qui peut prendre la place de cette idole dans notre vie. Et qui peut devenir le cœur et le centre de notre vie. Si tu te reposes sur ce que Christ a fait pour toi, si tu apprécies Christ et que tu t'en réjouis, en apprenant à l'adorer de façon joyeuse, en apprenant à le prier en se souciant de lui, alors Jésus-Christ va devenir de plus en plus beau à ton cœur. Jésus-Christ va devenir de plus en plus beau à ton imagination. Et Jésus-Christ va devenir de plus en plus attirant pour ton cœur et beaucoup plus attirant que n'importe quelle idole. En résumé, identifier les idoles intellectuellement ne suffit pas. Il faut absolument abandonner les idoles et les remplacer par la joie que nous trouvons en Christ et dans ce qu'il a fait. Si ta famille ou ton travail sont devenus tes idoles, la réponse n'est pas d'arrêter de travailler ou d'abandonner ta famille, mais c'est d'aimer plus Christ, afin de ne plus être esclave de ces idoles qui t'entravent. Et ce qui est bon de savoir, c'est que c'est un processus qui prend toute la vie. Jean-Claude, à 80 ans, a sa vie derrière lui, il a réalisé qu'il a pu réaliser tous ses rêves. Mais il commence aussi à réaliser quelles sont les idoles qu'il a servies toute sa vie. l'argent et le succès qui ne peuvent plus aujourd'hui le satisfaire. Mais en fait, c'est peut-être là son plus grand espoir. Parce que le jour où tu réalises que l'idole que tu poursuis et pour laquelle tu consacres ta vie ne peut plus te satisfaire, c'est le moment où tu réalises que tu dois l'abandonner, que tu dois quitter cette idole. Et certains le font à 80 ans, et le mieux, c'est de pouvoir le faire le plus tôt possible dans notre vie. Mais il n'y a pas d'âge pour cela, et c'est certainement un processus qui dure toute la vie. Jean-Claude, c'est mon grand-oncle, mais vous pouvez aussi penser à lui.
Christ s'est sacrifié pour nous alors que l'idole nous demande de nous sacrifier pour elle. J'ai bien retenu ça, entre autres. Hein? Alors, Jean-Claude. Ah bon, il n'y a pas de Jean-Claude ici. Je croyais qu'on était tous un peu Jean-Claude, mais... Puissions-nous, dans notre cœur, dire au Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Prions. Seigneur, merci pour ces rappels qui sont aussi pour tes enfants des avertissements. Et nous voulons les prendre comme venant de ta part, Seigneur, pour continuer avec ta grâce d'essayer de te suivre, d'essayer de chasser avec toi ce que nous devons chasser de nos vies, pour que tu y prennes une plus grande place. Merci pour cette matinée. Merci de prendre soin, Seigneur, de Sylvain, de toute sa famille, de nos personnes âgées ou malades. Que cette journée continue d'être à ta gloire et toute cette semaine qui est devant nous. Merci pour tes grâces, Seigneur. Amen. Bonne journée.